Bonjour à ceux que j'ai pas encore vus. Oui, ce matin, j'avais à cœur de vous parler de la première église, parce que voilà, c'était pas des hommes et des, enfin, c'était pas une église parfaite, hein, parce que elle était formée d'hommes et de femmes et ils étaient imparfaits comme nous, on est imparfaits. Donc, c'était pas une église parfaite, mais tout ce qui est écrit dans la parole a été écrit pour notre instruction et on a des enseignements à tirer du fonctionnement de la première église. Alors c'est pour ça que j'avais ça à cœur ce matin, enfin pour ce matin. Voilà, vous savez bien que l'Église c'est l'assemblée des croyants en Jésus, de tous ceux qui ont été sauvés par la foi en Jésus. Hein. C'est dans Actes 2, verset 47, il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et puis c'est le Seigneur Jésus qui a voulu l'Église. C'est pas une construction humaine, c'est lui qui l'a voulu et c'est lui qui l'a bâti, c'est-à-dire qui l'édifie, qui lui donne sa forme, qui la fait grandir, qui la structure, qui l'affermit par la parole. Tout ça, ça vient de Jésus. Et c'est ce que Jésus dit clairement, hein, quand Pierre reconnaît que Jésus est le Messie, hein, Jésus lui dit à Pierre, dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, alors qu'avant il s'appelait Simon, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne la vaincront pas. » Remarquez bien, le Seigneur il dit pas, tu seras le chef, et puis en dessous, il y aura une église pyramidale. Non, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pas une église pyramidale avec le grand chef tout en haut, hein, les chefs juste en dessous, les sous-chefs encore en dessous, et puis en dessous, tout en bas, les membres qui n'ont qu'à obéir et à se taire, hein, quelque part. Non, c'est pas ça que Jésus a voulu. Jésus dit ailleurs à ses disciples que le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est humble comme un petit enfant. Et dans Matthieu 20, versets 25 à 28, il le dit encore plus clairement, hein, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. » On devrait dire « Il ne doit pas en être de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous doit être votre serviteur et quiconque veut être le premier doit être l'esclave de tous. » Tout comme le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc c'est vraiment pas une église pyramidale et bon, si l'église malheureusement est devenue dans certains cas pyramidale, ben c'était pas la volonté initiale de Dieu, de Jésus. Paul, l'apôtre des païens, il explique aux croyants d'Éphèse, dans Éphésiens 2, versets 20 à 22, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, en Jésus, tout l'édifice s'assemble et s'élève pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble. » Pour devenir une habitation où Dieu réside par son esprit. Alors la traduction elle est peut-être un peu différente de ce qui est projeté, mais c'est parce que j'ai traduit depuis une Bible anglaise, la Holy Bible. J'aime les Bibles anglaises parce qu'elles sont souvent plus proches du texte original que les Bibles françaises. Voilà, donc je me suis permis de traduire depuis la Bible anglaise. Voilà. Et donc ce texte hein, nous montre clairement que, en fait, c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, ce qu'apportent les apôtres et les prophètes, sont un fondement. Et en fait, c'est le fondement de la parole. Les apôtres et les prophètes sont là pour vérifier que l'Église se bâtit bien sur la parole de Dieu et non pas sur des préceptes humains. Donc les apôtres et les prophètes sont les serviteurs de l'Église. Et puis plus généralement, hein, les cinq ministères sont les serviteurs de l'Église. Ils aident à édifier l'Église. Hein. Ça, c'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, un peu plus loin. Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est lui, Jésus, qui a donné à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants de la parole, pour préparer le peuple de Dieu aux œuvres du ministère, afin que le corps de Christ soit édifié jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, et que nous soyons parvenus à maturité, ayant atteint la pleine mesure de la plénitude de Christ. Donc les cinq ministères n'ont pas été donnés à l'Église comme des chefs autoritaires, hein. C'était pas ça du tout, mais vraiment des serviteurs de la parole, qui sont chargés de veiller à ce que l'Église elle soit bien fondée sur la parole de Dieu et qu'elle grandisse bien dans l'amour et dans la marche par l'Esprit. Éphésiens 4, 16, un tout petit peu plus loin. Par lui, par Christ, le corps tout entier, assemblé et tenu ensemble par toutes les jointures qui le soutiennent fortement, grandit et se construit lui-même dans l'amour, alors que chaque partie fait son travail. Alors ça souligne aussi, voilà, non seulement c'est pas une église pyramidale que le Seigneur a voulu, mais c'est pas non plus une église où certains font leur boulot et puis les autres ils suivent et puis ils consomment tranquillement. C'est pas non plus ça. C'est vraiment une église où chaque partie fait son travail. En fait, oui, vous savez bien qu'il y a un passage, alors je l'ai pas mis dans le bon ordre dans mes notes, mais voilà. Dans 1 Corinthiens 12, tout le chapitre de 1 Corinthiens 12, hein, donc il est détaillé le fait que l'Église est le corps de Christ. On l'a dit encore tout à l'heure. Mais le corps, ça veut dire quoi? Les différents membres du corps, les différentes parties du corps, ont chacune des fonctions particulières, des choses particulières à faire. Si l'œil voulait fonctionner comme l'oreille, par exemple, il y aura un petit problème. Et inversement. Si la main voulait fonctionner comme le pied, ou ça n'irait pas non plus. Les différentes parties du corps ont des choses particulières à faire. Et quand le corps est bien assemblé et que chacun fait son boulot, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Et chacun ne peut pas dire aux autres qu'il n'a pas besoin d'eux. Parce qu'on a tous des dons particuliers d'une part, mais aussi des choses qui nous manquent. On n'a pas tous les dons, ni tous les ministères. On a besoin les uns des autres. Et donc, du coup, ça pose problème si certains se disent, moi je veux servir Dieu seul, et je suis seul dans mon coin. Alors bon, je veux bien aller au culte de temps en temps, mais je reçois, et puis c'est tout. Mais c'est entre moi et Dieu. J'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de la communion fraternelle. Ça pose un gros problème, parce que c'est plus le corps, c'est plus comme ça que... Voilà, c'est comme si un membre du corps voulait être tout seul dans son coin, ça posait un petit problème. Hein. Il y a quelques années, donc je me suis coupée là, entre les deux phalanges, j'avais pas prévu de dire ça, mais ça me vient là maintenant. Et rien que le fait que ce doigt là, à cet endroit-là, il peut plus plier, rien que ça, c'est encore maintenant parfois handicapant. Mon doigt, là, il veut pas m'obéir, il veut pas se plier entre les deux phalanges. C'est quand même handicapant, parce que des fois, quand je suis un peu fatigué, si je prends un verre de la main gauche, je risque de le laisser échapper. Rien qu'à cause de ça. Ça a l'air tout bête, mais voilà. Hein, c'est un dysfonctionnement du corps, même si c'est un tout petit détail qui empêche le corps de fonctionner correctement. Hein. Et de même... Si un membre du corps s'isole, se met à part, ne veut pas être dans le corps, il manque au corps. Et le corps lui manque aussi. D'autant plus. C'est dans les deux sens. Voilà, donc dans le corps, chacun reçoit de Dieu des dons et des talents particuliers. Et en fait, c'est pour les mettre au service des autres. Ça, c'est Pierre qui le dit. Dans 1 Pierre 4, 10, Pierre dit, donc encore une fois, c'est la traduction anglaise, « Chacun devrait utiliser chaque don qu'il a reçu pour servir les autres et être ainsi un intendant fidèle de la grâce de Dieu dans ses divers aspects. Si quelqu'un parle, il devrait le faire selon la parole de Dieu. Si quelqu'un sert, il devrait le faire par la force que Dieu lui donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. » Donc c'est... Voilà, que ce soit un ministère visible, comme quelqu'un qui parle devant tout le monde, ou voilà, quelque chose de bien visible, ou bien un ministère caché, comme quelqu'un qui va servir sans qu'on voit ce qu'il fait, voilà. Aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Dans les deux cas, si c'est fait avec la force de Dieu, hein, avec la force que Dieu lui donne, et si c'est fait par l'Esprit, eh ben c'est aussi valable aux yeux de Dieu, c'est aussi important pour le corps, et ça bénit le corps aussi, de manière aussi importante, quoi. Il n'y a pas de grand ministère et puis de petits services pas importants, non. On est, et c'est dans ce cas-là qu'on est égaux aux yeux de Dieu. C'est dans ce sens-là, pardon, qu'on est égaux aux yeux de Dieu. Voilà, l'Église n'est pas, la première Église, hein, elle n'était pas formée de quelques ministères actifs et de beaucoup de consommateurs passifs, comme ça peut se voir quelquefois, mais elle est formée de membres qui apprennent les uns des autres et qui agissent ensemble pour répandre le royaume de Dieu. Dans Acte 2, donc au début du livre des Actes, on dit que ce sont les apôtres, les 12 apôtres, qui opèrent des miracles. Mais après, dans la suite du livre des Actes, eh ben, on parle de miracles qu'ont fait d'autres personnes, qu'ont fait Étienne dans Acte 6, verset 8, Philippe dans Acte 8, verset 5 à 7, Ananias dans Acte 9, verset 10, 18, etc. Hein, je vais pas tous les citer. Et à cause de ces miracles-là, ben, beaucoup de gens venaient au Seigneur. S'il y avait eu que les 12 apôtres, l'évangile ne se serait pas répandu autant. Mais voilà, l'évangile s'est répandu très très vite parce que les gens témoignaient de ce qu'ils vivaient avec Dieu, mais aussi qu'ils faisaient des miracles, ils priaient pour les gens, ils étaient guéris. Hein, et puis d'autres miracles sans doute, mais bon, ceux dont on parle le plus, c'est des guérisons. Voilà, c'est d'abord à Pierre que Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Il lui a dit ça juste après lui avoir dit que sur cette pierre, il va tirer son église. « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc c'est déjà énorme. Mais ensuite, et pas beaucoup plus loin, hein, dans Matthieu 18, verset 18, il a dit cela pour toute l'église. Là, ça s'adresse à toute l'Église. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, ce n'est pas une Église hiérarchique où certains ont le pouvoir et puis les autres, ben non, ils n'ont qu'à suivre. Mais c'est une Église formée de disciples de Christ qui ont tous reçu son autorité. La première église avait compris ça et elle le mettait en pratique. Donc bon, ouais. Peut-être on a à faire des progrès dans ce sens-là. Moi, pendant des années, hein, j'ai cru que, par exemple, la prière pour les malades, ben, c'était pas pour moi, quoi. Il fallait laisser faire les spécialistes, les responsables, mais moi, surtout pas. Hein, voilà, qu'est-ce que j'étais, qui étais-je moi pour demander à Dieu de guérir quelqu'un? Déjà, lui demander de me guérir moi-même de certaines choses, j'osais pas, mais alors demander à Dieu de guérir quelqu'un d'autre, ouf. Il a fallu tout un enseignement du Saint-Esprit pour que je comprenne que ben si, c'est le rôle de tous. Si tous ont non seulement témoigné à nos voisins, à nos collègues, etc., mais que régulièrement on priait pour leurs petits bobos et on voyait des résultats, parce que Dieu est fidèle, hein. Il sait que les non-chrétiens ont besoin de signes. Donc voilà, si nous on ose, eh ben lui il va être fidèle pour répondre. Hein. Bon, bien sûr, il faut lui demander aussi. Hein. Ça m'est arrivé de prier pour des résurrections. Et puis bon, j'avais pas la conviction du Saint-Esprit que je devais prier. Je l'ai prié bon par la foi, mais sans conviction que je devais le faire. Eh ben, ça a pas marché. Hein. Donc bon, faut pas le faire n'importe comment non plus. Mais si l'Esprit nous pousse à prier pour quelqu'un, ne surtout pas se dire « Oulala, bon, il faut que je demande à un tel responsable de venir prier pour la personne. » Non, si l'Esprit nous pousse, on y va. Et c'est dans ce sens-là que chacun fait son job quelque part. Voilà. Donc oui, pour les paroles prophétiques, il faut quand même soumettre. Hein. Il vaut quand même mieux demander à quelqu'un de venir, d'être témoin et soumettre ce qui est dit. Mais bon, pour la prière de guérison, aucun problème, on y va, quoi. Voilà. Et donc la première église, hein, elle était formée de toutes sortes de personnes, parce que les premiers chrétiens, c'était des juifs, ou des prosélytes, c'est-à-dire des anciens païens qui s'étaient convertis au judaïsme. Mais ensuite, les juifs ont compris que les païens pouvaient aussi être touchés par l'évangile et se repentir. Et ils se sont rappelés que Dieu avait dit à Israël dans Ésaïe 49, verset 6, donc bien avant la venue de Jésus, « Je t'établis, Israël, pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ils se sont rappelés de ça, c'est cité aussi dans les Actes. Donc la première église était formée à la fois de juifs croyant en Jésus, mais aussi de non-juifs croyant en Jésus. Il y avait des gens très instruits, comme Paul, mais il y avait aussi des gens du peuple sans instruction. À part la parole, hein, ça oui, ils la connaissaient, mais pas d'autres instructions, quoi, comme Pierre et Jean, par exemple. Et ces gens-là, bah, le Saint-Esprit les rendait capables de parler avec assurance. Et ça étonnait les autres, d'ailleurs, ceux qui les entendaient, qui savaient très bien qu'ils n'avaient pas d'instruction. Il y avait des hommes, mais il y avait aussi des femmes qui avaient des positions de responsabilité. Dans ses lettres, Paul cite des compagnons d'œuvre, donc des gens qui sont responsables avec lui. Certains sont des hommes, mais il y a aussi des femmes. Il y a Phébé, Priscille, Persine, Nympha, notamment. De ces quatre femmes-là, elles avaient des églises dans leur maison, chacune. Il y avait des gens de toutes conditions sociales, de tous âges, de toute nationalité, et ils vivaient très proches les uns des autres, parce que, en fait, leur style de vie était très très radical. Selon Actes 2, versets 42 à 47, les chrétiens de la première église, ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Chacun était rempli de la crainte de Dieu et il se faisait beaucoup de miracles et de signes. Donc à ce moment-là, c'était encore par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru vivaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils se rassemblaient dans les cours du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils mangeaient ensemble avec des cœurs joyeux et sincères. Ils louaient Dieu, et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ce passage, ça nous parle vraiment d'une vie entièrement consacrée, d'une vie de don de soi, d'une vie d'action et de prière qui porte du fruit, puisque l'Église grandissait de jour en jour. C'est pas du tout des chrétiens isolés qui vivent leur foi dans leur coin, seuls avec Dieu, voilà. Mais c'est vraiment une Église qui marche ensemble, qui grandit ensemble. Et donc, le fait de vivre ensemble, d'être ensemble dans cette unité, c'était un sacré défi. Au fur et à mesure que l'Église a grandi, c'était franchement pas simple. Il y avait déjà les Juifs de Bérée qui ont pris la parole, qui ont accepté la parole, mais qui ont quand même voulu vérifier. Donc, ils sondaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bon, ça, c'était une très, très bonne chose. Mais il y avait aussi les juifs, les pharisiens par exemple, qui n'acceptaient pas trop que qu'on fraternise un peu avec les païens, quoi. Ils ont reproché à Pierre d'être entré dans la maison de Corneille, qui était pourtant quelqu'un qui craignait Dieu, mais qui n'était pas quelqu'un qui s'était converti au judaïsme, ce qu'ils appelaient un prosélyte. Il était juste un craignant Dieu. Donc ils ont reproché ça à Pierre. Et ils ont dû comprendre, bon, Pierre leur a dit, mais ils ont reçu, Corneille et tous ceux de sa maison, ils ont reçu le Saint-Esprit, voilà. Puis il leur a expliqué la vision qu'il avait eue, tout ça. Donc ils ont dû laisser tomber leurs préjugés, laisser tomber leur raisonnement, tout ce qu'ils avaient appris. Et les pharisiens, ils étaient vraiment, ancrés dans la parole de Dieu. Mais ils avaient tout un fonctionnement rigide qu'ils ont dû laisser tomber. Ils ont dû se rendre compte que le temps était venu d'ouvrir la porte aussi aux païens. À partir du moment où ces païens voulaient donner leur vie à Jésus, il n'y avait plus de raison. Ils donnaient leur vie à Jésus, ils recevaient le Saint-Esprit. Il n'y avait plus de raison de ne pas avoir de relation avec eux. Ils ont dû vraiment laisser tomber leurs préjugés. Et nous, on aura peut-être aussi à laisser tomber nos préjugés quand on verra arriver des drogués ou des homosexuels, des gens qui n'ont peut-être pas un style de vie que nous, on apprécie. Et on aura peut-être aussi à laisser tomber nos préjugés et à ouvrir la porte quelque part, à les accueillir comme des frères et sœurs en Christ, même si leur vie n'aura peut-être pas changé tout de suite. Par exemple, un drogué, un ancien drogué, ou même quelqu'un qui fume ou qui boit, etc., il va pas forcément arrêter tout de suite. Où il y aura des hauts et des bas, quoi. Des moments où ça ira, et puis des moments où il chutera à nouveau. Il aura besoin d'accompagnement. Donc comment on va réagir dans ces cas-là, Voilà, donc ça posait vraiment plein de problèmes d'être comme ça tellement diverses dans l'Église. Et puis bon, une autre chose, l'apôtre Paul, lui et d'autres, il avait fait un grand voyage missionnaire où il avait fondé plein d'églises. Et ensuite, il fallait retourner dans ces églises. Donc jusqu'au bout de sa vie, il a dû voyager. Il a dû aller visiter régulièrement les autres églises. Et il leur apportait les salutations. Donc ça veut dire qu'il y avait des relations qui avaient été créées entre les différentes églises. Et jusque loin, c'était jusque Rome, etc. Enfin, c'était loin. Je ne sais même pas si c'était pas encore plus loin que Rome. Si, les Galates, c'était encore plus loin. C'était la Gaule, hein. Voilà. Bref. Donc, l'apôtre Paul et d'autres ont dû faire beaucoup de voyages. Et à l'époque, les voyages, en plus, c'était pas aussi facile que maintenant, loin de là. C'était beaucoup plus compliqué. Donc, c'était aussi un grand don de soi de prendre le temps d'aller visiter les uns les autres, d'aller apporter ce dont ils avaient besoin. Et tout ça, c'était conduit par l'Esprit. Il y a eu des fois où il aurait voulu aller à un endroit et le Saint-Esprit lui disait non. C'est pas le moment. Donc il fallait aussi obéir, chercher la volonté de Dieu, aller par l'Esprit. Donc c'était un grand don de soi. Il a fait des naufrages, il y a eu toutes sortes de choses. C'était un grand don de soi et c'était aussi une grande écoute du Saint-Esprit. Et puis le fait d'y aller, il n'y allait pas seul. Il y allait toujours avec au moins une autre personne. Donc c'était aussi en équipe. Il y allait en équipe. Et il y avait vraiment des relations qui s'étaient créées, puisqu'il leur disait, un tel ou une telle vous salue, ou bien saluer un tel ou une telle qui connaissait déjà dans ses lettres. Donc il écrivait des lettres aussi, pareil, ces lettres, il fallait bien que quelqu'un il les portait aux bons endroits. Donc il y avait quand même pas mal de voyages, pas mal de relations qui s'était créé, c'était en fait un réseau. Ils vivaient déjà comme un réseau. Et nous, bien souvent, on est notre petite église locale dans notre coin. On connaît pas trop les autres églises. C'est tout juste si on sait un peu ce qu'ils font, voilà. Tout dépend s'ils sont assez proches de nous ou bien s'ils sont vraiment très différents de nous. Alors on cherchera pas trop à savoir ce qu'ils vivent. Donc dans ce domaine-là, on a vraiment à changer, à laisser tomber nos préjugés, à nous ouvrir les uns aux autres. Voilà, parce qu'on a des choses à recevoir les uns des autres. On a des choses à donner aux autres et des choses à recevoir aussi. Par exemple, bon, les catholiques sont très portés sur l'action sociale. Et ils ont, voilà, c'est grâce aux catholiques qu'il y a eu les hôpitaux, les, je crois même les écoles au début, voilà. C'était beaucoup les catholiques qui faisaient toutes sortes de choses, les orphelinats, les œuvres sociales en général, c'était les catholiques au départ. Après, il y a eu des protestants qui s'y sont mis, mais bon, au début, c'était les catholiques. Et ils ont gardé ce côté œuvre sociale. Quand j'étais dans la communauté de Lille, avant de venir en Alsace, on avait donc ouvert une œuvre sociale, hein, ça s'appelait la Beige. C'était parce qu'il y avait énormément de sans-abri, donc c'était pour aider les sans-abri, d'une part à retrouver un logement et un travail, enfin retrouver une vie normale. Mais au départ, c'était simplement déjà pour les soigner, parce que beaucoup avaient des plaies, des problèmes de santé énormes, enfin voilà, à force de vivre dans la rue, quoi. Et voilà. Et ben la plupart des, donc on leur donnait des repas et tout ça, on faisait plein de choses. Hein. Et ben la plupart des gens qui étaient engagés avec nous, c'était pas les autres églises évangéliques de la ville, c'était les catholiques. Eh oui, parce qu'ils étaient beaucoup plus sensibles à ça. Pardon. Oui, et quelques protestants aussi. Oui, c'est vrai. Mais les autres évangéliques, on les voyait pas trop. Ben oui, parce que voilà, on a des choses à recevoir les uns des autres. On n'a pas forcément les mêmes dons, les mêmes talents, les mêmes préoccupations. Et on a besoin de recevoir des uns des autres et d'apprendre les uns des autres. Et Jésus a dit clairement, hein, les gens diront, voyez comme ils s'aiment. Et il parlait pas des gens dans un même petit groupe, hein, il parlait des gens de tous les chrétiens. Voilà, donc on a vraiment des choses à apprendre aussi dans ce domaine, hein, de chercher à connaître les autres, de chercher à, donc là il y aura bientôt la semaine avant Pâques, hein, où c'est l'occasion justement de chercher à connaître un peu plus ce que vivent les autres. Pour l'instant, on le fait deux ou trois fois par an, hein. On le fait avant Noël, avant Pâques, et puis normalement pour la fête de la musique, mais bon, la fête de la musique c'est juste un événement. Avant Noël et avant Pâques, il y a plusieurs événements à chaque fois. Donc c'est vraiment l'occasion d'être avec d'autres chrétiens, des chrétiens complètement différents de nous, et de chercher à les connaître et la semaine avant Pâques en particulier, et puis aussi le lundi et de Pâques, c'est vraiment des moments précieux. D'année en année, on voit les progressions dans les relations. Voilà, donc c'est une manière parmi d'autres, sans doute, de grandir dans ce domaine, quoi, de nous ouvrir aux autres, de grandir. La première église, ils essayaient ça. Bon, c'est sûr, ils n'étaient pas parfaits. Hein. C'était franchement parfois difficile. Hein. Par exemple, les juifs, hein, toujours, les juifs qui s'étaient, qui avaient accepté Jésus quand même, mais bon, ils avaient encore toute la loi en tête, et puis ils voulaient que les non-juifs qui se convertissaient à Jésus soient circoncis, qui respectent toute la loi, enfin voilà, qui deviennent juifs, quoi. Et il a fallu vraiment que le Saint-Esprit les convainque. Hein. Donc ils ont commencé par... Ils se sont rassemblés à Jérusalem, hein, tous les anciens. Ils ont commencé par discuter. Et puis finalement, au bout de pas mal de discussions, il a fallu quand même que... Je crois que c'est Paul qui a tranché. Non, c'est Paul ou Pierre, je ne sais plus. Enfin, l'un des deux a tranché. Hein, je l'ai dans Acte, si vous voulez. C'était Jacques qui avait tranché, d'accord. Il a fallu qu'un des apôtres franches, quoi, disent bon, voilà. Après toutes les discussions, il fallait quand même que la voix du Saint-Esprit se fasse entendre clairement, quoi. Parce que bon, des fois, il y a beaucoup de discussions, mais la voix du Saint-Esprit, on l'écoute pas forcément. Voilà. Et puis bon, eux, ils étaient pas mieux que nous, hein. Voilà. Donc il a fallu que Jacques tranche. Et ensuite, ils se sont mis d'accord. Ils ont continué le travail. C'est ça qui est bien, hein. Ils n'ont pas simplement dit « Ok, ben Jacques, toi tu fais, tu leur dis ça, mais nous on n'est pas d'accord ». Non, ils se sont mis ensemble et ils ont ensemble élaboré un texte où ils disaient aux païens qui étaient devenus chrétiens, quoi, ils leur disaient de juste s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de la débauche. Et il y avait encore une chose, je ne sais plus, une quatrième chose, mais voilà, vraiment du minimum, quoi. Mais il ne leur demandait pas ni la circoncision, ni l'obéissance à toute la loi. Donc voilà, donc il y a eu des conflits dans cette première église, hein. Ils n'étaient pas parfaits, mais ces conflits, ils ont pu les surmonter avec l'aide du Saint-Esprit. Et Jésus a prié pour notre unité. Dans Jean 17, et il continue à prier pour notre unité. Et là, je parle de l'unité de tous les chrétiens, de tous les vrais chrétiens, voilà, de tous ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur. Si on veut vraiment servir le Seigneur, même si on n'est pas d'accord sur des points mineurs, on va dire, c'est pas grave. Même des choses qui nous paraissent importantes à nous. Par exemple, bon, ma maman, hein, elle avait vraiment commencé à connaître Jésus. Hein. Elle faisait vraiment appel à Jésus pour toutes sortes de choses. Et puis, vers la fin de sa vie, elle a recommencé, parce qu'elle a été à nouveau un peu prise en main par certaines personnes, elle a recommencé à s'adresser à la Vierge Marie, etc. Bon, elle était sauvée quand même. Voilà. Et bon, moi, je lui ai simplement rappelé que c'était chaque fois qu'elle avait reçu des réponses à la prière, c'était vraiment Jésus qui avait répondu. Voilà. Donc, il peut y avoir des choses même un peu choquantes comme ça, où, oui, le Seigneur est plus grand que nous. C'est lui qui connaît les cœurs. Donc que nous, on puisse vraiment ne pas juger et puis, voilà, dire franchement ce qu'on pense, mais ne pas juger, ne pas nous permettre de juger les autres. Même si ce qu'ils font ou ce qu'ils disent nous choque, parce qu'on se dit, mais non, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. On peut les reprendre, mais avec douceur. Et puis surtout sans juger. Parce qu'on n'est pas mieux, nous, il y a peut-être d'autres domaines où on n'est pas du tout au point par rapport à la parole de Dieu, où on ne fait pas du tout ce que Dieu nous demande. Hein. Ne serait-ce justement que être ouvert à tous les chrétiens et à toutes les personnes qui viennent nous voir. Rien que ça, déjà, voilà, c'est un drôle de défi. Hein. Mais on peut se relever ce défi avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus prie pour ça. Et parce que c'est lui qui il le veut, donc il va nous aider à le faire. Voilà, donc la première église, ça nous donne vraiment des défis, aussi au fait de mettre tout en commun. Ça, c'est souvent quelque chose, on se dit, mais c'est pas possible, dans le monde actuel, on peut pas faire ça. Eh ben, figurez-vous que moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. C'est pas pour me glorifier, hein, parce que c'est vraiment le Seigneur. Moi, j'étais bon jeune chrétienne, tout feu tout flamme. Là, j'avais lu la parole de Dieu, j'avais vu dans les Actes des Apôtres, ils disaient les premiers chrétiens mettaient tout en commun, etc. Et dès le début de ma vie professionnelle, donc j'ai commencé à vivre en communauté et j'ai donné tout mon salaire. J'ai jamais gardé un seul salaire de l'éducation nationale à l'époque. Pour moi, je donnais tout mon salaire. Et je recevais à l'époque 200 francs par mois d'argent de poche. Donc vraiment minimum, quoi. Mais je vivais en communauté, donc tous mes besoins étaient pourvus, quoi. Si vraiment j'avais besoin de m'acheter quelque chose, on me le payait quand même. Mais c'était pas forcément sur mon argent de poche. Donc mes besoins étaient pourvus. Je suis pas morte de faim et j'ai pas. Voilà, j'avais quand même ce qu'il fallait. Voilà. Mais quand j'ai voulu venir en Alsace, donc pour la formation Mathurin Cordier, je n'avais aucune réserve. J'avais même plus de compte d'épargne puisque je l'avais aussi donné pour l'achat d'une maison d'accueil en Ardèche, hein, au nom de la communauté. J'avais aussi tout donné. Donc voilà, j'avais vraiment rien, de rien, de rien. Et le Seigneur le savait. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que j'ai un congé de mobilité de l'éducation nationale. Je savais même pas que ça existait. Je savais qu'il y avait des congés de formation. Mais ça voulait dire qu'on devait payer la formation. On n'était pas payé pendant ce congé de formation. Alors que là, ce congé de mobilité, il me payait pendant un an. La seule exigence, c'était que je devais pas seulement faire les 3 mois de la formation théorique, Mathurin Cordier, mais que je devais ensuite faire un stage pratique jusqu'à la fin de l'année. Mais ça tombait bien parce que moi je voulais faire ce stage pratique. Voilà. Donc pendant toute cette année-là, j'ai été payée par l'éducation nationale. Alors que moi je savais très bien que je faisais cette formation et qu'après je ne retournais pas dans l'éducation nationale. C'était clair pour moi dès le début. Voilà, voilà. Donc voilà, le Seigneur a permis qu'une organisation d'État, hein, me paye mon année de formation à la fois théorique et pratique voilà, à l'éducation chrétienne. Donc Dieu sait, il sait très bien quels sont nos besoins et il va pourvoir. Oui, c'était la toute première formation Mathurin Cordier, oui. Voilà, voilà. Oui, donc on avait aussi le privilège de loger au château, de faire le ménage du château et tout et tout. On avait tout ce privilège-là, voilà. On était les seuls habitants avec ceux qui ont pris des appartements, là. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Enfin bref, donc Dieu sait et il est fidèle pour pourvoir. Mais bon, ça demande d'abord un pas de foi, hein, quand j'ai fait ce... voilà, quand j'avais fait ce pas de foi de tout donner, notamment le compte épargne, là, etc. Ma famille n'a pas apprécié d'ailleurs. Bref, quand j'ai fait ces pas de foi, je savais pas d'avance qu'il y aurait la formation Mathurin Cordier et que j'aurais besoin d'avoir de l'argent pour y aller. Voilà, pour moi, c'était, je restais dans la communauté à vie, quoi. Je croyais vraiment ça. Donc nous, on connaît pas l'avenir, mais on fait les pas de foi que Dieu nous demande. Hein, je crois vraiment que Dieu me le demandait à l'époque. Hein, voilà. Et puis, on voit Dieu agir. Et quand on a besoin, il est fidèle pour pourvoir. Hein. Alors bon, actuellement, je ne donne plus tout mon salaire. Hein. Mais voilà, je sais que si extraordinairement, je vais faire une offrande, voilà, bah Dieu va une plus forte que d'habitude, quoi. Dieu pourvoit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce que vivaient les premiers chrétiens, c'est sûr, c'est hyper exigeant, mais c'est possible. Si Dieu nous le demande, c'est possible. Et aussi, le fait de... Bon, ils vivaient très proches les uns des autres, donc ça devait souvent friter un peu dans les relations. Voilà. Mais on sera peut-être amené à vivre des choses comme ça. Si on est un jour, voilà, si on devient un jour une église persécutée, on sera peut-être amené à être beaucoup plus ensemble que, et puis même sans ça, hein, on sera peut-être amené à être beaucoup plus souvent ensemble et à avoir des relations plus proches. Et forcément, il y aura des choses pas faciles. Parce qu'on est humain et parce qu'on n'est pas parfait. Mais le Seigneur sera là avec sa grâce. Et il nous fera grandir. Dans le pardon, dans le fait de, oui, se faire grâce les uns aux autres, et puis dans le fait d'apprendre les uns des autres, de recevoir ce que l'autre a à m'apporter, qu'il soit de la même petite église locale ou d'une autre église complètement différente. Donc de recevoir ce que l'autre a à m'apporter, même un petit enfant peut nous apporter vraiment. Je me souviens d'un petit enfant, alors que j'avais des problèmes de dos terribles, qui était venu me prier pour moi. Et ben, voilà, ça a été réglé pour un temps. Ouais, et il était petit, hein, il avait, je sais plus, 4 ou 5 ans à l'époque. Il a prié tout simple, hein, voilà. Seigneur, bénis Je sais même pas si, non, il savait pas mon prénom, donc il a dit, voilà, bénis-la, guéris-la, et voilà. Et... Mais il avait la foi d'un petit enfant. Donc même les petits enfants ont des choses à nous apprendre, et voilà, leur foi toute simple, toute confiante, enfin, qui se pose pas de questions, qui commence pas à douter. Ah mais qu'est-ce qui va se passer si Dieu répond pas et tout, enfin bref. Donc vraiment, même un petit enfant et une personne qui est très très simple d'esprit peut aussi nous apporter énormément dans sa joie, sa spontanéité. Je pense notamment à Béatrice. Hein. Voilà, elle nous apportait énormément aussi. Hein. Et puis dans sa réceptivité à l'esprit, hein, les dessins qu'elle faisait, etc. Voilà. Donc on a vraiment à apprendre des uns des autres et à marcher ensemble. Et c'est quand on marche ensemble qu'on peut vraiment être le corps de Christ. Donc d'une manière beaucoup plus large. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Je ne suis pas tellement restée sur mes notes, mais bon, c'était beaucoup plus que ça. Mais voilà, je vous encourage vraiment à chercher à connaître les chrétiens d'autres églises et à élargir votre cœur.